Il est 6h19. Le plus grand pays d'Amérique latine vient d'élire à sa tête un candidat d'extrême droite. Jair Bolsonaro est le nouveau président du Brésil. Avec 55% des voix, la victoire est nette face au candidat de gauche, Fernando Haddad. Jair Bolsonaro a 63 ans. Il se présente comme anti-système et sécuritaire. Il ne cache pas sa nostalgie de la dictature brésilienne. Ses opposants, eux, le qualifient de violent, raciste, sexiste et homophobe. Pour analyser ce tremblement de terre politique, nous sommes en ligne avec Mochirio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste du Brésil contemporain et maître de conférences à l'Université Paris-Est. Vous vous trouvez en ce moment à Rio de Janeiro. Vous avez tenu à aller sur place pour suivre au plus près cette élection. Mochirio, la démocratie est-elle en danger au Brésil ?
Alors, la démocratie, elle est déjà effritée depuis maintenant 2 ans. C'est pas un hasard si un candidat qui est à ce point-là différent de ce que représentait la scène politique depuis 30 ans, depuis le retour de la démocratie après la dictature, arrive au pouvoir. C'est le résultat d'une désagrégation du système politique, d'une crise politique, économique, morale et d'un dysfonctionnement des institutions qui a provoqué que quelqu'un qui se présente comme complètement extérieur à la scène politique, il n'est pas, il est député depuis 30 ans, arrive à aspirer les attentes de tellement de Brésiliens, même si c'est sur des positions qui sont des positions entre l'extrême droite classique et une extrême droite plus fascisante que ce qu'on connaît actuellement sur la scène internationale.
Cette victoire marque le retour des militaires au pouvoir. Y a-t-il un risque que le pays bascule dans la dictature ?
Oui. Alors, une dictature qui ne serait pas une dictature strictement identique à celle que le pays a connue dans les années 60 et 70, parce que c'était une dictature commandée par des généraux. Et Bolsonaro est un capitaine de la réserve qui a été exclu de l'armée. Donc, ce ne serait pas exactement une dictature militaire hiérarchique. Par contre, un régime autoritaire, répressif. La répression est annoncée, puisque dans son discours de victoire, Bolsonaro a dit que son principal objectif, c'était le nettoyage des communistes. Donc ce sera un régime répressif et probablement ce sera un régime militarisé, puisqu'il a déjà annoncé que 5 ministres au moins seront des généraux de la réserve. Par ailleurs, un élément très important qu'on voit ce soir, c'est les défilés dans la rue de troupes qui sont acclamés par la population qui a voté pour Bolsonaro. Donc on a une participation très variée et très intense de l'armée à la scène politique dans ce qui va être un nouveau régime. On ne pourra plus parler de la Nouvelle République. La Nouvelle République, elle est morte ce soir.
Est-ce qu'il a les mains totalement libres ou est-ce qu'il existe des contre-pouvoirs, que ce soit au niveau politique ou au niveau judiciaire ?
Il y en a peu des contre-pouvoirs. Le pouvoir judiciaire s'est beaucoup discrédité depuis 2 ans et demi en adoptant des décisions extrêmement variables, contradictoires à l'intérieur du pouvoir judiciaire. Le Suprême Tribunal fédéral est lui-même extrêmement divisé sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est un processus démocratique ou non ? Pour ce qui est de la presse, Bolsonaro a déjà dit qu'il la mettrait au pas. Il a annoncé qu'il fermerait l'un des grands journaux conservateurs qui a dénoncé le scandale du financement massif de fausses nouvelles et la diffusion de ces fausses nouvelles par la messagerie WhatsApp, qui a été un grand élément de l'explosion électorale de Bolsonaro. Donc on peut se demander si ça ne va pas être un régime véritablement autoritaire et donc dans lequel les contre-pouvoirs ne seraient plus du tout quelque chose qu'on pourrait espérer comme maintien d'un certain équilibre démocratique.
Et pourtant, dans son discours de victoire, Jair Bolsonaro a promis de défendre la Constitution, la démocratie et la liberté. Donc pour vous, ce ne sont que des mots ?
Oui, ce sont que des mots. Enfin, c'est-à-dire, la démocratie, c'est un mot qui est un petit peu à géométrie variable. Le coup d'État de 64, c'était appelé une révolution démocratique, puisque démocratie est un mot beaucoup associé en Amérique latine depuis 1945 à l'absence de communisme. Donc, la démocratie à la liberté, ça veut juste dire être le plus anticommuniste possible, même s'il n'y a plus vraiment d'alternative communiste comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, la Constitution, on peut s'en réjouir qu'il utilise la Constitution et qu'il montre la Constitution, parce que un danger, c'est que dès son investiture, il commence à légiférer en enfreignant la Constitution, en particulier pour permettre la réduction des droits civils et politiques d'une partie des populations du pays. J'espère, oui, que la Constitution sera respectée, mais je n'en suis pas sûre.
Est-ce qu'on sait déjà qui a voté pour lui ? Est-ce qu'il y a un profil type des électeurs de Bolsonaro ?
Alors, quand on a 55% d'une population aussi variée que le Brésil qui vote pour un candidat, c'est qu'en fait, il y a une très grande diversité des profils sociaux. Ce qui est sûr, c'est que les catégories les plus blanches et les plus aisées ont plus voté pour lui, hein, et que les États du Sud, du Sud-Est et du Centre-Ouest ont plus voté pour lui que les États du Nord-Est. Le Nord-Est est la région du pays qui est restée attachée au Parti des Travailleurs et très très peu séduite par la figure de Bolsonaro. On sait également que les populations noires, homosexuelles et jeunes de moins de 24 ans ont été moins séduites par Bolsonaro. Donc en fait, le profil principal qu'on peut établir, c'est que les populations qui sont le plus visées par les discours de répression des minorités sont les populations qui ont moins voté pour Bolsonaro, ce qui n'est pas extrêmement étonnant quand on comprend la logique du vote.
Jair Bolsonaro n'a pas caché ses intentions, donc finalement les électeurs ont voté en connaissance de cause.
Oui, c'est ça qui est très déstabilisant pour les observateurs, c'est qu'on n'a pas un glissement autoritaire à prévoir. On a l'annonce d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir militariste, d'un pouvoir répressif. Et malgré ça, pour certains électeurs, ou à cause de ça, grâce à ça, pour d'autres électeurs, les gens ont choisi assez nettement de le porter au pouvoir. Je dis grâce à ça et malgré ça parce que je ne pense pas qu'il y ait 55% des Brésiliens qui adhèrent au discours d'installation d'un régime autoritaire qui est celui de Bolsonaro. Beaucoup des électeurs ont voté pour lui parce qu'ils considèrent que le Parti des Travailleurs est un grand parti inefficace, corrompu, dangereux, communiste. Et il y a aussi une partie des Brésiliens qui, à cette occasion-là, révèle une homophobie latente d'un pays très religieux, fondamentalement religieux et de plus en plus dur sur des positions conservatrices, qui révèle un machisme profond, qui révèle un racisme qui est absolument central dans la société brésilienne. Donc il y a à la fois une extrême droite décomplexée, comme on pourrait dire à la française, et le fait aussi de profiter d'un rejet du système qui s'est concentré sur la figure qui était alors la figure émergente, qui est la figure de Bolsonaro.
Mais ce qu'il dénonce est réel, la corruption, les inégalités, la criminalité, tout ça, ça existe au Brésil ?
Bien sûr, alors la corruption, ça existe, c'est une évidence, elle touche toute la classe politique, elle touche tout particulièrement le parti dans lequel Bolsonaro a été actif pendant 11 ans. Bolsonaro lui-même est l'objet de entre 17 et 22 enquêtes, il faut vérifier, mais il est l'objet de tout un tas d'enquêtes sur des malversations. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui est une figure anticorruption, il n'a jamais ouvert la bouche contre la corruption dans ses 30 ans de mandat, il n'a jamais voté la moindre loi, il en a encore moins proposé contre la corruption. Donc il a profité véritablement d'un climat de discrédit autour de la corruption, parce que c'était une figure nouvelle que les gens ne connaissaient pas. Par ailleurs, sa figure d'ancien militaire a été exploitée au maximum pour le présenter comme un non-politique, alors que c'est un homme politique depuis 30 ans, donc ça, c'est assez contradictoire. Mais ça a permis que les gens considèrent que c'est une figure anti-corruption. Le fait qu'il ne prononce pas le mot de corruption lors de son discours d'investiture est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait, l'objectif n'est pas du tout de lutter contre la corruption, et je pense qu'il va y avoir aucune mesure qui va être mise en place, mais véritablement de mener une répression à l'égard des minorités, et à l'égard surtout des opposants, c'est-à-dire de la gauche.
Merci beaucoup, Mochi Rio, historienne, spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil. Vous êtes également maître de conférence à l'Université Paris-Est et vous étiez ce matin l'invité du 5-7 de France Inter.